L'originalité de ce mouvement, c'est la tournure qu'il a prise. D'abord la durée, puisque ça fait au moins 4 mois que les, on peut pas dire émeutes, mais enfin les quasi-émeutes et les protestations des villageois durent. Et la réaction du pouvoir, là, alors, est assez inédite, puisque ils ont pris tout simplement l'initiative d'encercler le village, d'interdire l'introduction d'alimentation et, en quelque sorte, d'affamer les villageois, ou du moins de leur faire craindre une famine imminente pour les faire plier. Mais disons que le pouvoir est embarrassé par cette soudaine fronde et cette soudaine audace de la part de paysans, parce que c'est tout simplement un village de 13 000 habitants, c'est un petit village qui est en train de résister farouchement aux intentions du pouvoir. Donc en cela, c'est inédit.
Et vous parlez de malaise du gouvernement. Pékin a quand même réagi en dénonçant un manquement des autorités locales.
Vous savez, c'est un jeu auquel jouent toutes les grandes dictatures. C'est-à-dire que dans le discours, on s'associe aux revendications de la population en disant « vous avez tout à fait raison, vous avez affaire à des fonctionnaires corrompus, c'est un scandale ». Mais quand les autorités provinciales répriment, à ce moment-là, le gouvernement central de Pékin ne dit plus rien et la répression se fait à huis clos.
Dans le cas de cette révolte à Wuhan, les villageois au départ ont manifesté contre la corruption des cadres communistes et également contre les expropriations. Est-ce que ce sont des mots emblématiques de ce qui révolte aujourd'hui la population chinoise?
Tout à fait, parce qu'il y a une véritable ambiguïté sur la propriété de la terre, ou disons la propriété de ce qu'on est en train d'exploiter, que ce soit une construction, un immeuble, un terrain de sport, un terrain de golf ou un champ de betteraves. Enfin, dans tous les cas de figure, l'État reste propriétaire et la propriété reste collective. Et c'est cette ambiguïté qui est terrible, parce que c'est elle qui a permis un enrichissement très rapide des autorités locales et une violence à l'égard des citoyens qui, lorsqu'ils étaient expropriés, n'avaient aucun argument légal pour se défendre. Donc c'est emblématique en ce sens qu'on voit ce genre de phénomène multiplié non pas par 10, par 100, mais par 10 000, 100 000, 1 million de fois à travers la Chine presque tous les jours. Ce qui a changé, c'est la prise de conscience de la population par rapport à ces phénomènes. Étant donné qu'ils se répètent et que petit à petit les gens savent que ce qui arrive dans mon village, ça se produit aussi à Pékin, aussi à Canton, aussi à Nankin, petit à petit ils comprennent qu'en fait ils sont dans leurs droits et qu'ils peuvent se défendre. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Alors la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ce ras-le-bol va se concrétiser en une rébellion généralisée ou est-ce que ça va durer encore comme ça longtemps?
Comment est-ce que vous interprétez la position du régime par rapport à ces manifestations? Est-ce que vous pensez qu'il est un peu pris au dépourvu?
Je ne suis pas sûre. Je crois que le pouvoir sait que ses jours sont comptés et qu'il joue contre la montre. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il n'y a pas un dirigeant chinois qui n'a pas envoyé ses enfants à l'étranger. Il n'y a pas un dirigeant chinois qui ne possède pas 1, 2, 3, 4 passeports dans lesquels il y a des visas pour émigrer à l'étranger. Donc je crois qu'ils sont très conscients de la situation dans laquelle il se trouve, d'autant plus que quelqu'un comme Poutine est menacé maintenant. De plus en plus, les dictateurs chinois se sentent isolés et menacés.